Que reste-t-il de Tchernobyl ?
Roland Desbordes est porte-parole de la CRIRAD, commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, association qui a été créée en 1986 suite à l'accident de la centrale de Tchernobyl. Nous allons l'entendre dans un instant. Tchernobyl reste un traumatisme pour beaucoup, car personne n'imaginait qu'une catastrophe dans une centrale nucléaire puisse prendre une telle dimension au niveau d'un continent, puisque le nuage radioactif est passé sur toute l'Europe. Roland Desbordes intervient régulièrement au sein de l'IUT de Digne, et pour lui, c'est un devoir de mémoire que d'informer les étudiants sur Tchernobyl. Il donne quelques conseils simples mais importants. Par exemple, pour les amateurs de randonnée en montagne et surtout de bivouac en Provence, se munir d'un compteur GGR, l'instrument qui mesure des rayonnements ionisants, pour éviter de planter sa tente ou de dormir sur une zone très radioactive. Il suffit généralement de se déplacer de quelques mètres. Roland Desbordes répond aux questions d'Odile Frison.
Nos voisins allemands et suisses, parce que le nuage est arrivé par là, prenaient des mesures, eux, chez eux, de protection des populations, retiraient des produits de la consommation, etc. Donc, c'était comme si le nuage s'était arrêté à la frontière. Par contre, pour nous, citoyens, le plus gros mensonge, c'est celui qui est arrivé après, c'est le nuage a épargné la France, et on peut donc consommer tous les produits, sans restriction, qu'on pourrait dans notre environnement. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on saura plus tard que les autorités étaient parfaitement au courant que les produits récoltés dans la Drôme, dans la Provence, etc., étaient très largement contaminés, en partie le thym sauvage, mais ce n'est pas le thym qu'on consomme nous, c'est le thym qu'on consomme les chèvres, les moutons, en liberté, et en grande quantité, et que, évidemment, les contaminations du lait, de la salade, des épinards, etc., étaient énormes, bien au-delà des limites autorisé par l'Europe, donc on ne respectait pas les règles européennes, ce que faisaient tant bien que mal les pays voisins, et on laissait consommer ces produits à toute la population de l'Est et du Sud-Est de la France, là où il aurait fallu prendre vraiment des mesures de protection et d'information du public. Ça n'a pas été fait, et c'est pour ça que la CRIRAD s'est créée, c'était pour dénoncer ce mensonge-là, pas la présence du nuage.
Alors aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années après, qu'est-ce qui reste de Tchernobyl ?
Alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant, pourquoi 33 ans après en reparler ? Bah d'abord parce que je suis dans un établissement scolaire ici, un IUT, il y a des jeunes qui n'ont pas connu Tchernobyl. Et donc pour eux, c'est de l'histoire, mais ce n'est pas dans les livres d'histoire. C'est pour ça que je tiens à parler de Tchernobyl pour leur en parler, pour qu'ils soient sensibles. Eux, Fukushima, ça leur parle. Ils ont vu Fukushima. Ils ont vu à la télé, avec les moyens d'aujourd'hui, les moyens médiatiques d'aujourd'hui. Par contre, Tchernobyl, c'est de la préhistoire, pratiquement. Donc, parler de Tchernobyl dans un IUT avec des jeunes, je pense que c'est très important, c'est un devoir de mémoire pour moi, d'abord. Hein. Et évidemment, ça nous concerne tous, et on a tous envie de savoir. Bah, alors, est-ce qu'il en reste un petit peu, beaucoup ? Est-ce qu'on peut, consommer tout ? On peut aller partout, sans prendre aucun risque ? Tchernobyl, c'est fini. Bah, grossièrement, oui. On peut dire que c'est fini, mais pas tout à fait. Il y a des compartiments de l'environnement où on va le retrouver. C'est le cas, par exemple, du bois. Dans le bois, en particulier les forêts de hêtres, qui ont été plus contaminées que les forêts de sapins, et où les feuilles tombent et sont radioactives, et tombent au sol, et resservent dans là, et font remonter la radioactivité qui a été déposée au sol. Ce qui fait qu'on retrouve ça dans le bois. Alors, dans le bois d'ouvrage, ce n'est pas un problème. Par contre, si on brûle ce bois, on va concentrer cette radioactivité, et du coup les cendres de bois, ça pose question. Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, dans la pratique souvent rurale, on les mettait dans le jardin. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de les mettre dans le jardin, parce que ce n'est pas un déchet radioactif vraiment, mais on n'en est pas si loin que ça, la cendre de bois. Après, c'est les champignons, qui par leur particularité, leur phénomène très bizarre, les champignons, est-ce que c'est des plantes comme les autres ? Non. Tout le monde le sait, hein, c'est des organismes vivants particuliers et qui ont une propriété, c'est de concentrer les métaux présents dans le sol. Et les éléments radioactifs présents dans le sol, ils sont sous forme métallique. Du coup, le champignon se gave de radioactivité, sans savoir que c'est la radioactivité évidemment, parce qu'il se fait tromper, je dirais, par la nature chimique de la radioactivité. Il va donc pomper du césium, c'est l'élément radioactif qui est très présent encore dans les sols, et en particulier dans les sols forestiers, pour la même raison que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans les sols forestiers, la radioactivité, elle n'a pas beaucoup bougé. Elle reste dans le complexe argileux-humique qu'on appelle de la forêt. Et ce qui fait que, bah, eux, ils vont être encore marqués par la radioactivité. On a refait une campagne d'analyse de champignons il y a 3 ans, pour les 30 ans de Tchernobyl en Rhône-Alpes. Alors c'est vrai qu'on n'est pas venu dans le coin, mais on a bien vu que les espèces que l'on avait repérées comme étant les plus contaminées, c'est-à-dire les champignons des bois, les girolles, les bolébés, etc., les trompettes de mort, etc., étaient beaucoup plus contaminées que les champignons de près, comme les coulemelles ou les agarics, etc. Ça, c'est une tendance qu'on ne sait pas expliquer, mais c'est comme ça. Eh bien là, je dirais, à la décroissance physique du césium, c'est-à-dire diminué par deux sa radioactivité, eh bien dans les champignons, aujourd'hui, on trouve exactement divisé par deux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas disparu, la radioactivité. Vu que le champignon continue à baigner dans ça, ben voilà. Donc moi, je dis aux gens, les champignons, c'est très bon, sauf qu'il ne faut pas en consommer toute l'année. Une omelette, une fois, deux fois dans l'année. Pour moi, je pense que ça ne présente pas de risque. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, si vous êtes un gros cueilleur, gros consommateur, vous les faites sécher, vous en mangez toute l'année. Si en plus vous êtes chasseur de gros gibier, de sangliers, etc., moi j'estime que le risque là, il devient sérieux. Il n'est peut-être pas inacceptable, mais il est sérieux. Et puis le dernier point, c'est là où on retrouve la radioactivité, alors à des niveaux extraordinaires, phénoménaux, c'est dans les zones de montagne. En altitude, col de la Bonnette, Bonnette reste fond, des endroits comme ça, vous avez autant de radioactivité qu'au pied du sarcophage de Tchernobyl dans la zone interdite. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des phénomènes d'accumulation dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'il est tombé énormément de radioactivité à cause de l'altitude, à cause de la pluie et sur des névés. Ce qui fait que concentré dans des zones comme ça, vous avez énormément de radioactivité. Et là, avec un compteur GGR tout bête, encore aujourd'hui, le compteur vous dit qu'il y a un problème. Et nous, on estime que dans ces zones-là, qui sont très fréquentées l'été, bah, il ne faudrait jamais planter sa tente à ces endroits-là. C'est pour ça qu'on dit aux gens, bah, si vous voulez savoir où planter votre tente, prenez un compteur GGR, hein, on vous en prête, si vous voulez, nous, la CRAD, on est une association, ce n'est pas pour les vendre, hein, c'est pour informer les gens. Nous, on dit aux gens, allez dans ces régions-là, c'est magnifique, mais ne plantez pas votre tente n'importe où. Et qui vous dira où la mettre, bah, c'est le compteur GGR. Je suis désolé, il faut passer par là.
Donc ça veut dire qu'il faut se prémunir de ce compteur ?
Alors, je n'ai pas dit que tout le monde doit s'en prémunir. Je veux dire, si vous allez dans ces zones-là, moi je conseille aux gens de se munir de ce type de compteur. Ce n'est pas un risque colossal, mais c'est un risque sérieux. Et c'est pour ça que je dis, oui, c'est bien. Si vous avez envie de faire de la montagne, allez-y, c'est très bien. Mais protégez-vous.
Alors quels sont les moyens de se protéger justement ? Parce que une fois qu'on sait qu'on est dans une zone où il ne faut pas planter la tente, est-ce que...
Pour moi là, c'est clairement, dans ces zones-là, c'est ne pas planter sa tente, parce que là on va dormir, s'allonger sur le sol pendant des heures, le temps de se reposer. Et là, c'est pas comme vous marchez, vous passez à travers, aucun risque. C'est pas des zones très étendues, c'est... En gros, moi je dis, ça vous coûte pas cher, ça vous restreint pas votre balade, c'est tout, un petit compteur GGR, c'est rien du tout. Et vous êtes tranquille. Moi, je ne voudrais pas que les gens aillent se balader dans ces montagnes avec la trouille au ventre, c'est complètement idiot. On est bien d'accord.
L'objectif de cette conférence, donc, c'est d'alerter les jeunes sur ces risques-là.
Oui, je suis très content de faire ça à l'UT parce que, justement, il y a des jeunes qui n'ont pas connu cette époque-là. L'époque Tchernobyl, c'est le Minitel, c'est pas l'Internet, etc. Pour eux, ils ont du mal à se plonger sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Leurs parents, je me suis aperçu, leur en parle rarement. Tout le monde a mal vécu Tchernobyl, mais c'est important que l'histoire soit écrite pour nos jeunes.